Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode.
Mais la première fois, ou du moins la période où ça a commencé à m'interroger, où ce terme a pris de l'importance pour moi, je pense que c'était un séminaire de développement personnel.
Ok.
Où je me suis rendu compte du nombre de personnes, et notamment de femmes ou de personnes assignées femmes à la naissance, qui ont vécu des agressions sexuelles, des bris de consentement, et où j'ai pu prendre la mesure de la difficulté à respecter le consentement, à faire respecter son consentement, à être consciente et conscient aussi de nos limites et de les faire entendre. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris conscience d'à quel point, pour moi aussi, c'était un sujet qui était difficile et compliqué. Donc ça, je pense que c'est la première fois que ce sujet a commencé à m'intéresser. Et ensuite, ça a été plus sur Facebook, une personne qui est devenue un ami. À l'époque, je le connaissais pas du tout, mais il faisait des posts sur le consentement dans la sexualité. Je m'intéressais beaucoup à cette thématique-là en particulier. Je m'intéresse toujours beaucoup à cette thématique en particulier. et je pense que c'est les premiers posts qui m'ont frappée en me faisant me dire mais en fait il y a des outils, il y a des choses qui sont possibles dont je n'avais pas idée pour faciliter ce consentement mutuel, cette prise en compte des limites et des désirs de chacun chacune.
Ouais. Et du coup, juste pour spécifier le terme, parce que nous, on sait très bien, c'est parce qu'on utilise ce terme tout le temps, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui soit l'ont jamais entendu, soit c'est pas ultra clair. Et dis-moi si je me trompe, mais pour moi, la définition de consentement, c'est en gros l'accord qu'on donne à une proposition, un projet, enfin quelque chose où on nous fait une proposition. Et ensuite, mon consentement, c'est est-ce que je suis d'accord avec ça, est-ce qu'on le fait ou pas. Et que comme tu dis, beaucoup de fois, on donne une réponse et cette réponse est soit biaisée par des choses, soit pas prise en compte. Et c'est je voulais revenir sur le terme bris de consentement que tu as utilisé tout à l'heure, parce que je pense que ça, c'est un terme qu'on n'entend pas forcément tout le temps. C'est qu'en gros, je dis, je te donne une réponse à une proposition que tu me fais et tu brises cette réponse en faisant comme si elle n'existait pas. C'est quelque chose comme ça, c'est ça? Peut-être que tu peux redéfinir un peu.
Oui, tout à fait. Bah, tu l'as très bien défini. Le consentement, c'est simplement l'accord donné à une proposition. Et j'ai envie de repréciser un accord libre et éclairé. Oui. C'est-à-dire que j'ai conscience des tenants et des aboutissants de la proposition qu'on me fait. Et je me sens suffisamment sécure et libre pour donner ma vraie réponse. Et ensuite, un bris de consentement, oui, c'est simplement soit que ma réponse n'a pas été prise en compte, soit juste qu'on m'a pas posé la question aussi et qu'on m'a imposé quelque chose, ou alors que on m'a posé la question, mais au moment où j'ai donné ma réponse, j'avais pas conscience de ce que ça impliquait forcément. Et donc, bien sûr, autour de cette notion de consentement, il y a ce que parfois on appelle les zones grises, j'aime bien le voir comme un spectre, en fait. Il y a le fuck yes hyper enthousiaste où il y a zéro doute, il y a le non surtout pas, et entre ces deux extrémités là, il y a tout ce qui est de l'ordre des hésitations, des doutes, j'ai envie mais j'ose pas, ou j'ai envie mais je sais pas, je suis pas sûre, etc. quoi.
Ouais. D'où le terme éclairé, je pense, qui est important là-dedans, qui est de avoir toutes les cartes sur la table, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des endroits dans le monde et dans la vie où ce truc-là est même juridiquement cadré. En préparant la formation sur laquelle je travaille pour l'entreprise là sur la prospection consentie, je suis allé voir que dans le domaine médical, c'est une obligation légale pour énormément de procédures comme des opérations de vraiment détailler en amont toutes les potentielles conséquences, tout ce que ça comporte, le processus de telle ou telle opération, pour que la personne donne en amont son consentement éclairé. Mmh. Et en fait, c'est même tout le débat de l'euthanasie, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus parler, ne peuvent plus s'exprimer, qui ont plus possession de leurs moyens, et qui ne peuvent pas donc donner un consentement éclairé sur est-ce que je veux mettre fin à ma vie ou pas. Mmh. Et c'est ça, tout le débat sur l'euthanasie, que je trouve effectivement intéressant du coup. Parce que ce qui est recherché, c'est que la personne dise « oui, je veux ça, je suis en pleine possession de comprendre tout ce qui se passe et tout ce qui peut se passer, et ma décision est oui.
» Très intéressant.
Ouais, mais c'est du coup le petit parallèle. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à cet endroit-là, c'est plus ou moins bien fait, mais en tout cas, c'est présent dans le débat et le discours et la manière dont les choses sont gérées, c'est dans le protocole. Alors que je pense que, comme tu disais, tu mentionnais la sexualité tout à l'heure, c'est pas forcément dans le protocole, malheureusement.
Par défaut, on en est loin, ouais. Par défaut, tout se fait par sous-entendu, interprétation, et par pulsion aussi. Donc,
Et du coup, je pense que c'est clair à quel endroit c'est problématique, mais peut-être que tu peux revenir sur ça, sur... c'est quoi les potentielles conséquences de ne pas vraiment prendre en compte ni le temps de demander, ni l'écoute de la demande. Dans la sexualité, je pense que c'est clair, mais peut-être tu peux partir de là et étoffer dans la vie au sens général, quoi.
Alors, les conséquences, ça peut aller du simple malaise, du simple inconfort au trauma, à des situations traumatogènes. Donc il y a différents degrés, évidemment. Si par exemple, je me suis forcée à manger une part de gâteau de plus pour faire plaisir à ma grand-mère, je vais peut-être avoir un peu mal au ventre. Voilà. Tout le monde ne va pas le vivre de la même manière, déjà. Cette situation, il y a des personnes pour qui ça va pas devenir problématique, mais il y a des personnes pour qui ça va créer du bruit, du malaise, etc. À un niveau individuel, ça peut aller d'un simple malaise à des grandes souffrances, mais aussi ça a des conséquences sur le lien. Quand je me force à faire quelque chose avec quelqu'un, que ce soit dans la sexualité, c'est assez évident, mais même dans les autres domaines de vie, ça a un impact sur notre relation, ça a un impact sur notre lien. Ça va créer une forme de distance, de résistance, peut-être de crainte, d'évitement, de potentiellement de rancœur. Donc, même en tant que personne qui propose quelque chose, j'ai tout intérêt à ce que le consentement de mon interlocuteur, mon interlocutrice, soit plein, soit éclairé, soit complet, parce que ça va aussi avoir des conséquences sur notre lien et potentiellement aussi sur moi, du coup.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Et ça, effectivement, c'est un truc, je pense, c'est entre guillemets contre-intuitif avant qu'on mette de la conscience dessus. Et je pense que, tu vois, comme là, on va forcément faire des liens avec le monde professionnel et la relation client, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, qui sont à leur compte. Il y a, je pense, une préconception de la négociation, par exemple, où on se dit, le but, c'est gagner. Qu'il y ait une personne qui gagne et l'autre personne qui va peut-être perdre dans la négociation. Alors que, quelque part, si c'est vraiment ce qui se passe, donc quelqu'un rentre dans une relation commerciale avec un biais de consentement, par exemple, donc c'était pas un grand oui éclairé, j'ai trop envie d'y aller. Il y a peut-être un moment plus tard, et c'est certain d'ailleurs, où on va payer le prix que consentement de chaque partie n'était pas éclairé dès le début.
C'est ça. Et Isabelle Padovani disait il y a longtemps, dans convaincre, il y a deux mots, il y a con et vaincre. Donc ouais, j'aime bien l'idée de voir plutôt la négociation comme trouver un terrain d'entente où chacune des parties soit pleinement satisfaite.